Da bist du von Haut. Wie sieht sie aus? Welche Faktoren sind mir wichtig? Wo sind Gefahren? Und welche Trends gehen es? Genau mit diesen Themen beschäftigt sich der Podcast New Work, eine Kollaboration zwischen der Chambre des Salariés und dem Lützebäuer Journal.
Une inégalité sociale, c'est le résultat d'une distribution inégale, vraiment au sens mathématique de l'expression, entre les membres d'une société.
C'est une réforme fiscale qu'on demande déjà depuis de nombreuses années pour aplatir ce qu'on appelle au luxembourgeois le soi-disant Mittelstandsbockel.
Pour qu'il y ait une inégalité, il faut aussi qu'il y ait un sentiment d'injustice derrière. Il faut qu'on ait l'impression qu'on est traité différemment dans une situation qui, a priori, est égale.
In diesem Episode schwätzen wir über das Sujet, mit dem jeder recht von Sinn hat. Inegalitäten. Wie wird genau als eine Inegalität? Wer eine Sorte von Inegalitäten gibt, wie gehen die gemäß und wie kämpft den dagegen tun? Genau darüber haben wir mit drei ExpertInnen aus der Chambre des Salariés geschwätzt. Wir kommen fangen mal mit der Definition von einer Inegalität tun. Nathalie Georges als Conseillère économique bei der CSL. Sie kümmert sich hauptsächlich um das Analysieren von den Daten.
Les inégalités, comme vous l'avez dit, c'est quand même un terme très général. Il y a de nombreuses inégalités. Et donc, moi, je suis plus spécialisée en sciences humaines. Donc là, moi, il y a une définition que je reprends régulièrement. Et donc, je la cite. Hein, donc, c'est pour les auteurs donc, Alain Beer et Roland Pfefferkorn. Donc, ils disent qu'une inégalité sociale, c'est le résultat d'une distribution inégale, vraiment au sens mathématique de l'expression, entre les membres d'une société. Donc, une distribution inégale des ressources de la société et une distribution inégale qui est due aux structures mêmes de la société. Et ces distributions inégales font ressentir justement un sentiment d'injustice, qui est légitime ou pas, mais il y a ce sentiment d'injustice qui est à la base des inégalités. Alors, il y a les inégalités, elles sont, comme vous l'avez déjà dit, multiples. Il peut y avoir des inégalités donc sociales, des inégalités politiques, des inégalités éducatives, etc. Il y a tout un tas de sortes d'inégalités qui peuvent revenir. Et des inégalités, on peut en classer par trois catégories. Donc, des inégalités matérielles, des inégalités donc de l'ordre de l'avoir, de l'ordre du pouvoir, ce sont les inégalités basées sur les ressources sociales, sur les pouvoirs de décision, etc. Et il y a aussi des inégalités du savoir. Donc ça, c'est des inégalités au niveau de la connaissance. Ça, c'est ce qu'on prend en général au niveau des sciences humaines comme définition. Voilà, et c'est surtout aussi ce sentiment d'injustice qui est important. C'est ça qui fait qu'on paraît qu'il y a une inégalité. On se sent injustement privé de certaines choses. Ou justement.
Gefühl von Ungerechtigkeit am Nathalie ihrer Definition als am wichtigsten, so der Felix Martins, dem hat hier bei der Chambre des Salariés als Conseiller Ökonomik schafft. Wenn das Gefühl nicht da ist, gibt es keinen Grund, für etwas dagegen zu machen, weil Käse strever beklaut. Möchte sein. Mehr Inegalitäten gibt da viel, vom Abseits am Fußballsmatch, der Kiva, bis der Kollege, den am Kino einen besseren Platz kriegt. Die interessieren sehr sehr natürlich Männer. Auf welche Art der Inegalität sie sich aber fokussieren, zählt Dylan Theiseis, ein weiterer Conseiller Ökonomik bei der CSL, der sich um die Frauen rund um Pensionen an Inegalität fiskal kümmert.
Ça dépend dans quel cadre la Chambre des Salariés. Je crois qu'ici au LLLC, donc il traite plus de la formation et donc aussi des inégalités au niveau de l'éducation. Où est-ce que je peux dire, a priori, c'est plutôt sur les niveaux de revenus, donc souvent sur les revenus, lorsqu'on parle de taux de pauvreté, c'est souvent axé sur les revenus des ménages, donc au niveau des ménages même. Mais après aussi, et cela, on en parle un peu moins, mais ce qui est très important, ce sont aussi les inégalités de patrimoine, qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus importantes que les inégalités de revenus, mais qui sont généralement moins thématisées aussi, puisqu'on a moins de données à ce sujet-là. Et il existe encore les inégalités fiscales qu'on traite aussi souvent entre les revenus de travail et revenus du capital, par exemple, qui sont inégalement traités donc en matière de fiscalité, ou encore les revenus même et le patrimoine. On a le revenu qui est très importamment imposé, alors que le patrimoine n'est lui pas ou quasiment pas imposé du tout. Donc il y a ce genre de type d'inégalité économique en tout cas.
Oui, si moi je peux rajouter, évidemment, on regarde plutôt les inégalités de revenus parce que c'est aussi les données qu'on dispose le plus facilement. Donc forcément, on regarde ça, mais c'est certainement pas les plus importantes. Enfin, c'est les plus visibles, les plus on trouve les données les plus facilement, mais il y en a beaucoup d'autres et on essaye de trouver aussi d'autres choses à apporter qui sont pas forcément des données statistiques, mais qui sont plus difficilement abordables.
Ok, gut. Mais lo wo ma wissen, wat alles eng Inegalitéit ka sinn, stellt sich aber nach déi folgen fro. Wéi erkennt den eng Inegalitéit konkret? Well, holen wir mal Beispiel vun der Lohngleichheit tisch Männerfrau. Männer gehen an der Moyenne besser bezuelt wie Frauen, wobei dat der Lützebus net unbedingt wäuer ass. Mei wat fir Zuelen oder wat fir Elementer gi geguckt, fir herauszufannen, ob Geschlecht wirklich de Grund dofir ass. Nathalie Georges analyséiert da ist die bestimmte Fall zusumme mam Felix Martins.
Ben, c'est compliqué de voir justement quelles inégalités sont visibles ou pas. On en a parlé justement avant de venir. Et puisque vous parlez des inégalités hommes-femmes, au niveau du salaire, ben, au Luxembourg, on a vu qu'il n'y en a pas. C'est peut-être un des rares pays, en tout cas, oui. Pas au sens où on voit, voilà, un homme fait un tel travail, une femme fait un tel travail, ouais. Ils ont le même salaire. Où l'inégalité là, intervient entre hommes-femmes, c'est que probablement la femme travaillera moins de temps, parce qu'elle doit s'occuper ailleurs de d'autres personnes, de ses enfants, de ses parents âgés, etc. Donc, en termes d'inégalité homme-femme sur le salaire et sur la capacité de travail, pas la capacité, mais je veux dire la possibilité de travail, c'est que la femme probablement travaillera moins, d'où elle gagnera moins. C'est dans ces termes-là qu'on peut parler d'inégalité homme-femme au Luxembourg. Mais peut-être mes collègues ont...
Je sais pas. J'allais dire que les inégalités hommes-femmes au niveau salarial, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que justement on a cette spécificité que le salaire horaire des femmes est plus élevé au Luxembourg, en tout cas, un des rares pays où c'est le cas. Et toute la différence se joue en fait sur le temps de travail. Et là, la question. Est-ce que c'est vraiment, je suis un peu provocateur, là. Est-ce que c'est vraiment une inégalité? Parce qu'elle gagne la même chose. Elle travaille 10 heures, elle gagne la même chose que l'homme qui travaille 10 heures, voire en moyenne même un peu plus. Donc si elle décide, entre guillemets, si elle décide de travailler moins, bah forcément, elle décide aussi de gagner moins sur le mois ou sur l'année. Toute la question, est-ce que c'est une inégalité, elle vient du fait, est-ce que ce fait que les femmes en moyenne travaillent moins que les hommes est un choix volontaire ou est-ce que c'est quelque chose qui est contraint par la société, parce que la femme est censée s'occuper des enfants, des parents âgés, du ménage, etc. Et donc voilà, et si c'est contraint, si les femmes travaillent moins parce que elles doivent s'occuper d'autres choses et qu'il leur faut le temps de s'en occuper, bah alors ça devient une inégalité. Okay. Voilà, donc c'est pas toujours super clair qu'est-ce qui est une inégalité ou pas, et on revient à la définition où Nathalie disait à juste titre, pour qu'il y ait une inégalité, il faut aussi qu'il y ait un sentiment d'injustice derrière. Il faut qu'on ait l'impression qu'on est traité différemment dans une situation qui a priori est égale.
Dem Felix Martins no ginn et besser Beispieler wéi d'Lohngleichheet tëscht Mann a Frau. Et ass awer e gut Beispiel dofir, wéi komplex de Sujet vun der Gleichberechtigung wirklich ass, a verdeitlecht, dass Inselzuelen net dat ganz Bild weist. Nathalie huet de Sujet vun den Zuelen, also Donneien, firdro schon erwähnt. Et ginn Zuelen, déi méi einfach ze fannen sinn wéi anerer. Mei, vu wo kommen die Zuelen eigentlech? A wéi sammelt den se?
Bah, on se base largement sur les données officielles, donc les données du Statec, d'Eurostat. En partie sur le patrimoine, c'est une enquête de la Banque centrale ou des banques centrales européennes, dont la Banque centrale luxembourgeoise. Donc c'est surtout ça nos sources. C'est basé sur les statistiques officielles. Sauf que nous, on essaie d'apporter un éclairage un peu différent sur les questions. Pas juste dire ça a augmenté, mais essayer d'expliquer pourquoi ça a augmenté, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne, pour que ça évolue dans un autre sens, en faveur des salariés.
An wie muss denn die Inégalitäten dann, wenn ihn zu le bis hört? Denn Dylan Theiss erklärt.
À partir de sa définition, c'est vraiment qu'il y a une distribution inégale. Donc, au terme mathématique du terme de distribution, dire que lorsqu'on voit qu'une part de la population perçoit une part proportionnellement plus bas d'une certaine ressource, on peut déjà parler d'une inégalité. Pour mesurer ce genre de phénomène, on utilise effectivement souvent l'indice de Gini, qui est une mesure de concentration, de quelle manière est-ce que le patrimoine ou les revenus sont concentrés dans une société. Mais il y a plein d'autres outils avec lesquels on peut les mesurer aussi. Donc, à partir vraiment de la distribution de ces certaines ressources, de regarder combien possède 1% ou les 10% les plus riches par rapport à 1% ou les 10% les plus pauvres. Là, c'est des mesures qu'on fait souvent. Et puisque l'on fait souvent en termes de mesure du seuil de pauvreté, c'est qu'on part par la médiane. Donc on regarde quelle est la valeur qui sépare la population en deux parts égales, donc 50% sont au-dessus et 50% sont en dessous, et on regarde par rapport à cette médiane, comment est-ce que les gens se situent, est-ce qu'il y a plus une distribution qui est plus axée vers la droite ou plus vers la gauche, pour déterminer à quel niveau d'inégalité on est vraiment dans la société.
Mmh. Vous avez aussi parlé de l'indice de Gini, qui est un terme que je pense que tout le monde connaît, mais ce n'est pas forcément exactement ce que c'est. Vous pourriez peut-être un peu expliquer de quoi il s'agit et comment c'est calculé ?
Pour le calcul, c'est vraiment une formule mathématique qui mesure l'écart moyen en fait, entre chacune des personnes. Donc, je crois que je ne vais pas rentrer dans les détails, car je dirais certainement des bêtises à ce niveau-là. Mais ce qui est important, c'est que l'indice de Gini varie de 0 à 1. Donc, si on est vraiment à 0, c'est-à-dire que chaque part de la population a une part égale d'une certaine ressource. Alors que si on a un indice de Gini qui est égal à 1, ça veut dire qu'une seule personne ou un seul ménage dispose de l'ensemble des ressources qu'on analyse.
Neben dem indice de Gini an anderen mehr bekannten Maßeinheiten geht es danach des sogenannten Pauvreté cachée, sagt Nathalie Georges.
Mais en fait, c'est nous qui l'avons baptisé comme ça, parce que pour justement faire apparaître la différence des données statistiques qu'on a et qui sont basées sur des enquêtes et avec justement la réalité du terrain. Et là, on travaille avec des associations. On essaye de voir, entre autres avec des associations, on essaye de voir d'autres personnes qui subissent les risques d'exclusion sociale et de pauvreté. Et donc, on va leur demander si eux peuvent nous donner des données, des chiffres qui pourraient amener un autre point de vue, par exemple sur les épiceries sociales, sur la fréquentation des épiceries sociales. On va également voir les chiffres des offices sociaux, de voir donc quelle part de l'aide alimentaire ils donnent, enfin, quelles aides est distribuée par les offices sociaux. Donc, on essaie de trouver d'autres sources que ces enquêtes statistiques que tout le monde connaît, mais qui ne reflètent pas forcément la réalité. Et donc, on l'a appelé pauvreté cachée. Ça peut regrouper encore plein d'autres choses. Hein. On pourrait aussi imaginer que là, on peut trouver des données sur la solitude et des données qu'on ne trouve pas comme ça, mais c'est difficile à pouvoir transmettre après et d'être très exhaustif sur la matière.
Ouais. Oui, parce que ça peut se manifester tellement de façons et c'est quelque part reçu par chaque individu de façon différente aussi. Donc, c'est vrai qu'on pourrait avoir une égalité où quelqu'un ne ressent aucun sens d'injustice parce que c'est pas face à sa façon de fonctionner.
Voilà, oui, ça c'est... Ça reste de l'ordre de la perception, mais là, les personnes qui vont voir les associations, là, elles souffrent vraiment.
Ça, c'est clair.
Oui.
Bah, d'ailleurs, juste pour compléter, on a récemment publié une étude avec le LISER, où au-delà de ce que vient de dire Nathalie, c'est que les personnes qui fréquentent les épiceries sociales ou les foyers pour sans-abri, etc., c'est vraiment les personnes qui sont dans le besoin. Je pense que quelqu'un qui n'en a pas besoin, il ne va pas aller à l'épicerie sociale ou de toute façon, il n'aura pas accès. Mais ce qu'il y a aussi, et c'est ça que c'est difficile de capter avec des statistiques, c'est qu'on a donc fait récemment une étude avec le LISER sur le non-recours aux aides sociales. Et là, on voit qu'il y a quand même tout un tas de personnes qui sont dans des situations de besoin, qui sont aussi dans une situation où elles souffrent d'inégalité d'une forme ou d'une autre, et qui ne font pas la démarche aussi pour demander de l'aide, pour demander à améliorer leur situation par sentiment de honte, parce que c'est trop compliqué en termes de formulaires à remplir, de démarches à faire, etc. Et ça, c'est tout un pan d'une pauvreté qui est encore plus cachée que celle que nous, on regarde aussi dans nos publications. Je pense que ça, c'est aussi une chose qu'il faudrait regarder au cours des années à venir, de voir si on sait mieux documenter cela.
So gehen Inegalitäten also gemoss. Aber mit dem Wissen, was wir hier haben, wie gesagt, es für Lützeburg aus? Sehen wir, was Inegalitäten noch geht, ein guter oder echt ein schlechter Schüler?
Alors, sur certaines Inégalités, le Luxembourg se positionne plus ou moins bien.
Commençons par les pas bien.
Bah, notamment sur les travailleurs qui subissent quand même les risques de pauvreté. Donc, les travailleurs pauvres au Luxembourg, il y a une proportion plus importante que dans les pays voisins. Aussi, ça, c'est la plus grande des inégalités
oui,
par rapport
au niveau de l'Europe, on est les pires quasiment.
Et c'est dû à quoi?
Mais en partie, c'est aussi le salaire minimum au Luxembourg qui est quand même, en termes nominaux, il paraît assez élevé. Mais en termes réels, hein, si on le compare au niveau de vie ici au Luxembourg, si on le compare au niveau des prix, il est quand même assez faible. Hein, donc, et on est même comparé à la productivité, il est vraiment très, très bas au Luxembourg. Et il ne suffit pas pour atteindre le budget de référence qui est calculé par la Statec comme étant le seuil nécessaire, l'argent nécessaire qu'on nécessite pour avoir une vie décente. Donc, le salaire minimum n'atteint pas ce niveau-là. Donc, ça, c'est certainement une des explications. Et puis, il y a les intensités des travails qui joue aussi un grand rôle dans ce seuil de pauvreté, dans cette pauvreté laborieuse.
Un autre sujet, c'est les ménages avec enfants qui s'en sortent moins bien, spécialement les familles monoparentales. Donc là aussi, le Luxembourg se situe pas très bien au niveau européen. C'est en train d'émerger, c'est la pauvreté aussi des familles nombreuses. Là, c'était plus modéré et là, ça prend de l'ampleur.
Okay. De façon générale, tout ce qui est ménage avec enfants, on n'est pas très bien au Luxembourg par rapport à d'autres pays.
Ok. Et du coup, des exemples positifs?
La pauvreté grave, là.
Oui, sur ce qui est... c'est un autre aspect de la pauvreté, oui, sur la privation matérielle. Donc, en fait, les biens et services nécessaires du quotidien auquel les gens doivent renoncer pour des raisons financières. Ça, c'est très limité au Luxembourg, heureusement. Mais c'est vrai que c'est plus sur l'aspect monétaire et sur l'aspect d'avoir un niveau de vie correct qu'on n'est pas très fort.
Ok.
Oui, rien que le taux de risque de pauvreté général, il est plus élevé que les pays voisins.
Und es geht mit den Jahren nicht besser, wie Felix Martins und Dylan Theis also erklären.
Moi, de façon générale, j'ai envie de dire que sur tous les aspects, que ce soit inégalité de revenus, inégalité de patrimoine, risque de pauvreté, depuis le début des années 2000, la tendance est à la hausse. Après, il y a des hauts et des bas, il y a des années... Voilà, où on a un creux parce que la conjoncture est particulièrement bonne, etc. Mais la tendance générale sur les 20 dernières années, c'est vraiment une tendance à la hausse.
Ce qu'on voit aussi, c'est qu'au cours des dernières décennies, au cours des 35 dernières années sur lesquelles on a pu analyser les données, on voit aussi que cette inégalité croissante a un impact de plus en plus important aussi sur le milieu donc même sur les classes moyennes aussi. Donc ça, l'impact vient aussi vraiment dans le milieu. Donc pour tout un chacun. Et là, on voit que pendant les dernières décennies, le nombre de ménages qui appartiennent aux classes moyennes a, par exemple, baissé fortement. Donc il y a de plus en plus de ménages qui avant appartenaient aux classes moyennes, qui aujourd'hui appartiennent plutôt aux classes inférieures. Donc on voit, en tout cas en termes statistiques, qu'il y a une croissance vraiment de cette polarisation. Donc on a à la fois plus de gens qui sont vraiment dans les classes supérieures et une croissance de la part des ménages qui sont dans les classes inférieures, alors que la moyenne, donc cette moyennisation dont on parlait plutôt dans les années 70-80, est en cours de dégression.
Mmh. Donc on voit un vrai trou entre les deux, en fait.
Oui.
Ok.
Das klingt alles nicht so super. Mais die Chambre des Salariés spielt seinen Rolle und mischt sein Best, für die Tendenz zu bekämpfen. Zusammen mit Dylan Theis erzählt uns Nathalie Georges, wie.
Bah, disons qu'on fait des recommandations politiques. Après, nous, on peut rien mettre en place. On peut juste donner notre voix. Ce qu'on, par exemple, en termes de pauvreté, ce qu'on réclame depuis des années, c'est un plan en matière de lutte contre la pauvreté, un plan réel, bien avec des analyses, des rapports, des instruments à mettre en place, etc., pour ces différentes populations qu'on sait identifier qui sont plus à risque. Donc ça, c'est ce qu'on demande depuis des années, et on le répète encore et chaque fois. On a demandé aussi un exemple pour les allocations familiales. On réclame depuis longtemps qu'elles soient ajustées à l'index. C'est le cas maintenant, mais il y a toujours une perte depuis que ça a été désindexé. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut réclamer. Maintenant, nous, on ne peut rien mettre en place. On peut juste demander.
Mmh. Et du coup, parmi vos recommandations, on retrouve quoi comme idée pour combattre les inégalités?
Ben notamment, là, ce que je vous ai dit, donc un plan vraiment précis de lutte contre la pauvreté et avec des mesures qui toucheraient justement les familles, qui toucheraient les travailleurs salariés, donc par l'augmentation du salaire social minimum, par un révis bien présent aussi, des choses un peu plus concrètes comme ça, mais surtout un cadre qui serait vraiment une politique de lutte contre la pauvreté et les inégalités et l'exclusion sociale. Quelque chose d'encadré avec des mesures et des objectifs à moyen et long terme.
Ok.
Écoutez, si je peux encore ajouter, c'est une réforme fiscale qu'on demande déjà depuis de nombreuses années, pour aplatir ce qu'on appelle au luxembourgeois le soi-disant Mittelstandsbockel, où la progression de l'impôt est assez forte pour les très faibles revenus et qu'on atteint déjà quasiment le taux d'imposition marginale maximale à partir d'un revenu qui n'est pas si élevé que cela. Donc c'est là, à ce niveau-là, où on a demandé un aplatissement de ce Mittelstandsbockel et une baisse des impôts pour une grande partie de la population et une plus grande progressivité tout en haut du barème pour qui soit alors finançable aussi par des impôts plus élevés sur les top earners.
Afir aufzuschließen, was steht für CSL im Kader von den Inégalitäten dans notre Zukunft im Programm?
Ben donner un peu pour être plus concrète là, on a donc comme mon collègue Félix l'a dit fait une étude avec le LISER. Donc là il est ressorti des choses sur le non recours, il est ressorti aussi qu'il y avait des populations qui étaient quand même plus laissées pour compte, notamment les jeunes. Et donc un peu plus voir et analyser ce qui pourrait être bénéfique pour ces publics là et faire un peu plus des études qualitatives que du quantitatif, quoi. Vraiment essayer d'ouvrir d'autres portes et de voir comment faire pour que ça aille mieux et qu'il soit pris en compte. Donc, pour la Chambre des salariés, c'est dire et répéter encore toujours les mêmes choses.
En deuxième épisode, nous avons Nathalie Georges, Félix Martins et Dylan Theis, les trois conseillers respectifs, conseillères économiques de la CSL, et sur les inégalités avec lesquelles la Chambre des salariés auseinandersetzt. Sie haben uns erzählt, was für eine Sorte Inégalitäten das sind, welche Chambre des Salariés dagegen ankämpft und wo Lützeburg, was Inégalitäten angeht, steht. Wenn ihr noch mehr über dieses Sujet wollt wissen, dann besucht das Site von der Chambre des Salariés, csl.lu.